Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Jeudi Noir qui commence. Jeudi Noir, ça va les niveaux? J'ai l'impression de saturer. Je m'entends trop. Bref, Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir donc pour la rentrée. La rentrée littéraire, hein, comme avec les grands éditeurs qui font leur rentrée littéraire, mais en gratuit. Voilà. Donc, Jean-Mathias est là, Michel est là, José est présentement, donc l'équipe au complet. Et on va commencer, alors moi je vais vous présenter surtout des bouquins hyper hyper contemporains, quoi. Là je vais taper la pointe de l'actu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on verra, hein, vous allez voir, je ne vais pas spoiler non plus. Hein. Mais donc on va commencer par un bouquin de Martha Wells. Alors Martha Wells, c'est une autrice texane née en 1964. Donc oui, hyper contemporain. Voilà, donc c'est une femme qui est très très active aux États-Unis dans le milieu SF, du fandom, milieu Star Wars ou Star Trek, je ne sais plus, Star quelque chose, enfin voilà, elle est assez connue là-bas. Et puis bah, en France, ont été traduits une série de bouquins réunis sous le titre « Le journal d'un assassinte ». Assassinte, Murderbot en anglais, donc un robot assassin. C'est 6 bouquins. Sorti entre 2017 et 2021, actu, voilà, et traduit un petit peu après en français chez l'Atalante. Voilà. Donc une traduction d'ailleurs un peu approximative par moment, pas désagréable, mais un peu approximative par rapport au genre. Par exemple, le titre, un journal d'un assassinte, déjà, c'est pas top par rapport à l'histoire, puisqu'on se retrouve avec un androïde, on dit un androïde, je sais pas si on s'assume au féminin, mais en tout cas un robot humanoïde, qui est une unité chargée de la sécurité et donc est juste méga killer. C'est le killer killeuse, voilà. Mais qui décide de s'auto-pirater. Parce que, ras le cul d'obéir à des donneurs d'ordre, voilà, de compagnies de sécurité, on va dire. Donc, réussit à s'auto-pirater. Parce que Yel est super malin, hein. Et devient une unité de sécurité clandestine, on va dire. Alors, c'est pas comme TikTok de John Sladek que j'avais déjà chroniqué ici, qui est une sorte de robot qui s'émancipe des humains, mais qui est complètement psychopathe. Là, on est plutôt sur quelqu'un d'assez sensible. Alors, l'assassin a du mal avec les humains, qui trouve un peu dégueu. C'est pour ça que le côté aussi genré et sexué, il a un peu de mal. Parce que ça le met mal à l'aise, en fait. Les gens ont mal à l'aise, les rapports humains, ça le met mal à l'aise. Et ils préfèrent écouter, regarder des séries, beaucoup de séries, dont sa préférée qui s'appelle Apogée et déclin de la lune sanctuaire. Donc, l'assassin se mange des milliers d'heures de ces séries-là. Et donc, ces 6 petits bouquins qui sont autant d'enquêtes, on va dire, où l'assassin va nouer des rapports avec des humains, des êtres humains, des humaines. Et va faire certains choix qui sont assez, assez rigolos. Il est très anxieux, ou elle est très anxieuse, là donc c'est très dur avec la langue française, mais on peut le faire. Et contrairement à TikTok, justement, là on a plutôt un personnage qui est assez touchant. Alors c'est une lecture hyper facile, beaucoup disent, j'ai vu pas mal de critiques qui disent un peu une lecture d'été, ça s'écoute tout, ça se lit tout seul, c'est le cas. Mais il n'y a pas que ça. Assez riche, c'est un univers assez riche, assez profond. Le perso est vraiment très très bien vu et ça donne envie un peu de le lire en anglais. Alors je m'arrête là parce qu'on a d'autres bouquins. C'est Martha Wells, Journal d'un assassin.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Vous venez d'entendre La Chasse, un duo de Marseillaise qui chantait Crève, un morceau de 2017. Et comme toujours, c'est tout à fait en conformité avec le livre dont je vais parler, parce que c'est José qui fait les choix musicaux. Et ce soir, je voulais parler de Chasse Royale, une série de romans de Jean-Philippe Jaworski. Vous avez déjà parlé, je crois, de Gagner la guerre, qui se passait dans une espèce de Venise romaine, une puissance comme ça médiévale, un peu maritime, avec tout un tas de conflits politiques. Et là, Chasse Royale, c'est très différent, c'est un peu plus velu, disons, c'est un peu plus viril, avec et ça se passe, et c'est chez les Celtes. Alors, il semblerait que tous les gens qui parlent des Celtes ne soient pas fascistes, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, peut-être. Et là, c'est...
Le Seigneur des Anneaux.
Ouais, le Seigneur des Anneaux, bon, le Seigneur des Anneaux, tout ça, voilà, bon, il y a tout un tas de débats, on va pas en parler. Mais Chasse Royale, donc de Jaworski, c'est l'histoire racontée. En gros, c'est un vieux roi celte qui a vécu tout un tas de trucs fantastiques et qui raconte l'histoire de sa vie à un pauvre commerçant qu'il a capturé afin de transmettre un peu sa mémoire. Et donc, ça va être tout un tas de comment dire. Alors, il y a des côtés gonflants. Faut pas le cacher. En particulier, une espèce d'amour immodéré pour des termes rares de chasse. Donc bon. À les comprendre parfois, mais c'est quand même plutôt bien écrit et c'est assez haletant, avec un petit côté fantastique. Donc, c'est quelque chose que je pourrais vous recommander de lire si vous aimez les univers un peu médiévaux fantastiques, que vous avez rien contre les Celtes. Alors, La Chasse, ça va, malgré tout, il en parle. C'est pas l'objet du roman, d'accord ? Il n'est pas toujours en train de faire des trucs sur les chasseurs, sinon je vous en parlerai pas du tout. Mais bon, Jean-Philippe Jaworski a une plume, il arrive à construire des univers, et là, cette espèce de truc, celtique, gaulois, avec druidique, un peu dégueu, avec des gens qui sont très très cyniques, c'est assez agréable à lire. Alors c'est peut-être un peu long, je suis pas sûr qu'il ait encore fini sa saga. Il sera peut-être temps d'ailleurs à voir, mais voilà, si vous aimez ce genre là vous pouvez aller lire.
Thank you.
Oh là là, ça c'est de l'explosion ça, parce qu'on vient de bomber Disneyland. C'était le groupe Bomb Disneyland, avec le morceau qui s'appelle Bomb Disneyland, un groupe UK de 1989. On était petits. Et voilà, tout ça pour vous parler d'un bouquin de Sabrina Calvo qui s'appelle Melmoth Furieux. Alors juste avant, parce que j'ai oublié au premier, il y a une super émission de radio sur qui est diffusée sur Radio Campus Grenoble et sur Radio Dragon qui s'appelle Vortex et Rotative. On a deux fans de SF et de fantastique, surtout de SF, qui chroniquent des bouquins, qui font des bonnes chroniques d'une demi-heure, bien plus longues que les nôtres, qui sont juste des petits teasers. Et donc, déjà, j'avais repéré le journal d'Anna Sassinte dans cette émission. Et là, celui-là également, Melmoth Furieux, ça vient de cette émission-là. Il y en aura un troisième que je ferai à la fin, qui vient également de cette émission-là. Donc, je vous conseille cette émission qui s'appelle Vortex et Rotative. Et je mettrai les liens sur le site. Vous tapez Jeudi Noir et Gurdulu.org. Et vous tomberez dessus. Voilà. Merci à elle en tout cas pour ses super idées de lecture. Alors Sabrina Calvo, c'est une autrice marseillaise. On est dans le hyper contemporain. Également, elle est née en 1974. Melmoth Furieux, publié en 2020 chez La Volte. Alors ça raconte l'histoire d'une femme de 35 ans par là, qui vit dans des squats du côté de Belleville. Tout se passe dans l'est parisien, entre on va dire entre République et les Lilas, et aussi la grande banlieue est. Et Belleville est une commune encerclée par le pouvoir fasciste, on va dire, hein, là, qui s'appelle la Métrique, voilà, et qui essaye qui essaye de faire tomber les barricades. C'est un monde plein de squats, un peu début 90, on va dire, l'ambiance, de squats d'enfants particuliers, pas mal. Il y a des enfants geeks, hackers, il y a des ados un peu barrés, il y a plein de toute une faune, on va dire, sans être trop judgmental, comme on dit, je ne sais plus, je ne parle plus français, je suis désolé. Bref, voilà. Et donc, ce personnage, donc, qui s'appelle Phi, vient d'une cité rasée du côté de Marne-la-Vallée, qui a été rasée par les FAF, quoi. Voilà. Et donc, son rêve, c'est de cramer Disneyland, parce que Disneyland s'en est pris à son frère. Je dis pas tout, mais de manière assez violente. Et donc, elle a trop la haine. Donc, elle se réfugie aussi dans la. Et elle s'épanouit dans la couture. Donc, elle fait beaucoup, beaucoup de couture. Je raconte pas tout, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein d'aspects différents dans ce petit bouquin. Elle vit avec plein de gosses, assez marrant. On a beaucoup de punk. Hein. C'est très quepon tout ça. On a du René Binamé qui passe par là, par exemple. Voilà. Il y a aussi un côté fantastique avec des fantômes. On a beaucoup de solidarité dans voilà, ces milieux de squat. On a beaucoup de violence, beaucoup de romantisme, peut-être un peu trop. Hein. Il y a un petit côté aussi romantisme des barricades, romantisme insurrectionnel qui peut être un peu agaçant, un peu affecté, un petit peu précieux par moment. Par exemple, un des personnages s'appelle François Villon, quand même, ça peut être un peu too much. Mais passer tout ça, si vraiment on supporte ce petit côté-là, c'est vraiment un roman qui fout une petite baffe quepone, assez intéressante, plein de persos sympas. Il y a même un canard qui a trois pattes. Voilà, j'en dis pas plus, c'est un petit teaser. Donc c'est Sabrina Calvo, le bouquin c'est Melmoth Furieux, 2020, à la Volte.
Sans te observer tout un chacun, mais hélas, si tu le comptes, enfant prodige, tu deviens. À ton âge, tu connais bien les pins sommes le meilleur copain, les privations de cinéma et les colères de papa. L'argent n'est pas heureux, qu'on se bagarre bien à tort, puisqu'on est condamné à mort. 18 ans, c'est bien assez pour savoir que le temps va sans retour, qu'on peut conduire tout comme les grands, pour faire travailler les agents. Tu as 18 ans, tu peux sans te observer tout un chacun. Mais hélas, si tu le comptes en enfant prodige tu deviens. À ton âge, tu connais bien le baratineur, le crétin, le vieux monsieur très distingué qui chez lui voudrait t'inviter. À ton âge, tu sais bien que la chance n'a qu'un seul cheveu, qu'il faut bien vite s'y accrocher, ne pas la laisser s'envoler. 18 ans, c'est bien assez pour savoir ce que veut dire amour, sans qu'on s'écrit crénom de nom. Précoce cette génération, tu as 18 ans, tu peux sans te observer tout un chacun. Mais hélas, si tu le comptes, enfant prodige, tu deviens. Mais heureusement, certains comprennent qu'un enfant de 18 ans
Radio Liberté à 89.4, la voix sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir qui continue avec une émission de teasing littéraire pour cette émission de rentrée. Alors une petite annonce peut-être d'actualité puisqu'on voulait, on espère être peut-être les premiers à vous l'annoncer, mais il semblerait que la reine d'Angleterre vient de mourir, vient de décéder.
Voilà, ouais donc, voilà, donc,
God save the Queen, comme disaient les autres. Voilà. Alors, donc, c'était pas là-dessus que je voulais faire ma petite chronique de ce soir, moi. Mais sur un, c'est moi qui ai pris le créneau vintage. En fait, de la soirée, le roman bien de chez nous. Je voulais vous parler ce soir d'un roman de René Fallet qui s'appelle Banlieue Sud-Est. Alors, c'est René Fallet est un romancier éminemment sympathique qui a vécu et qui a écrit surtout après 45 dans les années 50 et 60. Il a aussi fait pas mal de choses pour le cinéma et il est éminemment sympathique. Mais il a grandi sous l'occupation, hein, et le roman La banlieue sud-est dont je vous parlais ce soir, il parle de ça. Très sympathique, c'était un ami très proche de Brassens, par exemple. Il était très très proche de Sandrars aussi, très apprécié de Boris Vian, de gens comme ça. Donc on est bien dans le vintage, hein, on est bien dans les années 40-50, et on est bien dans du libertaire. René Fallet était un pacifiste, anarchiste, antimilitariste, hédoniste, enfin tout un tas de très fort sympathique. Et alors peut-être qu'on fera une émission un peu plus développée d'ailleurs sur lui, sur ce texte-là et d'autres. Banlieue Sud-Est, c'est quoi? C'est un roman donc qui se passe pendant l'occupation et qui met en scène des jeunes, c'est-à-dire les fils et les filles des vaincus de 40, qui ont entre 14 et 18 ans sous l'occupation allemande, dans la banlieue sud-est, plus précisément à Villeneuve-Saint-Georges, c'est la ville d'origine de René Fallet, qui était lui-même fils de cheminot. Donc là, il y a aussi des fils de cheminot, c'est des jeunes ouvriers et ouvrières. Et en fait, on a une espèce de petit voyage dans le temps là, avec une plongée dans le mouvement, ce qu'on a appelé le mouvement Zazou. Mouvement Zazou, qui est en fait, effectivement, une espèce de réaction contre toutes les grands discours, les grandes proclamations militaristes, chauvines, politiciennes des années 30 en fait en France. Et là, on a des jeunes qui, en fait, dont le souci principal, est d'essayer de gagner leur croûte. alors que les pères sont soit prisonniers, soit au STO. Puis quand ils grandissent un peu, ben, d'échapper eux-mêmes au STO et puis d'essayer de profiter de la vie comme ils peuvent et avec une espèce de méfiance et de sarcasme permanent contre justement les grands idéaux ou plutôt les grands discours hein, tenus par la génération de leurs parents qui ont perdu la guerre. Hein. Alors ils supportent pas non plus les Allemands évidemment, mais il faut pas aller leur raconter, leur tenir de beaux discours sur la patrie, sur la France, sur le devoir, le travail, le maréchal, etc. Dès qu'ils envoient balader un petit peu tout ça, ils essayent de profiter de la vie le plus possible. Alors avec le tout écrit avec un style qui est très agréable à lire. Alors il y a un petit côté un peu Céline de gauche, si vous voulez, chez René Fallet. C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire une espèce de...
Non mais après les anarchistes de droite, maintenant il y a des Céline de gauche, voilà. Ça suffit.
Céline, si Céline avait été de gauche, il aurait peut-être pu faire un peu du René Fallet. Alors c'est moins spectaculaire au niveau du style, mais c'est quelqu'un qui est amoureux de la langue orale, de l'argot, alors des années 40, hein, donc c'est toujours un petit effet assez marrant, mais c'est une couleur poétique qui est assez assez chouette, et puis des personnages sympas, et puis voilà. L'histoire, je vais pas la spoiler comme j'ai l'habitude de le faire. Mais les questions d'amour, les questions d'amitié, les questions de travail, les questions d'engagement aussi, de désengagement, mais aussi un peu d'engagement. Et les questions de la banlieue, hein, c'est vraiment une déclaration d'amour aussi à banlieue, le banlieue sud-est.
C'est chez toi, ça.
Ouais, c'est chez moi, c'est à la maison, ça. Et c'est quand on est là, effectivement, Paris a l'air d'une province un peu lointaine. Hein, et c'est présenté un petit peu comme ça. Et donc voilà, c'est un roman que vraiment je recommande, la banlieue sud-est, très agréable à lire. Et donc une espèce de plongée là dans cette au cœur de cette jeunesse là des sous l'occupation des années 40. À milieu de tous les discours héroïques qu'on a pu tenir avant et aussi après, hein, après la libération. Et ça, c'est aussi le dernier intérêt du livre, enfin un des intérêts du livre, je vais finir là-dessus, c'est que je pense qu'en fait, il est représentatif de quelque chose d'important qui est souvent un peu mis sous le boisseau au profit des discours tenus un petit peu à la libération entre les héros communistes, les héros gaullistes, les salauds collabos, etc. Il se pourrait bien que en fait pour beaucoup 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 d'autres, pour la grande majorité des gens, ça a été, les choses étaient beaucoup plus nuancées, beaucoup plus que la vie se soit passée ailleurs en fait, hein, de ces rôles qui ont été assez fixés de manière assez rigide après. Et en fait le roman permet aussi de comprendre ça. Donc je recommande cette petite lecture banlieusarde sympathique, René Fallet, banlieue sud-est.
La chanson, c'était Marie-José Neuville, 18 ans.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir qui se poursuit avec cette littéraire. Donc là, on a écouté un groupe suédois qui s'appelle Symphonique Élégance avec le titre Life in the Future, la vie dans le futur, pour vous présenter un bouquin qui parle de gens qui aimeraient bien avoir une vie dans le futur. Alors c'est un bouquin de Karen Lord. Karen Lord, c'est une autrice de la Barbade. Et oui, il y a une autrice à la Barbade, peut-être plusieurs, mais en tout cas, une autrice traduite en français. C'est le seul roman traduit en français. Donc là aussi, on reste dans le contemporain. Elle est née en 68. Le bouquin, il date de 2013. Traduit en 2014 chez Panini France, quand même. Je tiens à noter, ça me fait un peu marrer. Et donc, ça s'appelle « Le meilleur des mondes possibles ». Et oui, un titre qui peut rappeler certaines choses, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, Karen Lord a écrit le meilleur des mondes possibles. C'est un roman de SF. On est sur la planète Sadiri, pas longtemps puisque la planète Sadiri, du peuple Sadiri, est génocidée. Et il y a quand même quelques survivants, principalement des hommes, qui échappent et donc ils sont en exil parce qu'ils n'étaient pas sur cette planète-là à ce moment-là. Et ils se retrouvent en exil et vont essayer de reconstruire leur culture, leur société sur une autre planète. Alors en particulier une planète qui est assez accueillante, où on trouve ça tout à fait normal d'accueillir des gens et de dire « bon, bah essayez de reconstruire votre culture, on a de la place chez nous ». Voilà. Et donc, ils envoient une fonctionnaire pour les aider. Et cette fonctionnaire leur fait visiter les différents peuples qui peuplent cette planète. Et donc, ça nous permet de voir différents fonctionnements de société, on va dire. Et c'est ce qui est assez étonnant, c'est que ce peuple Sadiri génocidé se retrouve avec plusieurs choix, soit se mêler à d'autres populations, essayer de chercher une pureté génétique peut-être, enseigner les disciplines Sadiri, c'est-à-dire des manières de vivre, on va dire, avec de la télépathie, tout ça Sadiri. Est-ce qu'ils vont faire appel à des épouses? Demander à des épouses si elles veulent se marier à des Sadiri. Quel genre d'épouse? N'importe qui les tout venant? Ou alors est-ce qu'on fait des tests génétiques pour savoir qui sera le plus proche de cette pureté Sadiri? Puisque ils se retrouvent avec, en ayant tout perdu, ils veulent peut-être se réveiller avec des enfants qui leur ressemblent physiquement. Alors ça ne choque absolument personne justement ce côté génétique de tout ça, ni les gens qui les accueillent sur la planète. Et donc ça permet aussi de parler sans trop de tabous sur de la race, de l'identité, de ce qui fait qu'on se sent chez soi. Donc un roman vraiment très très particulier avec beaucoup d'amour aussi. C'est très sympa à lire. Hein, c'est pas du tout un pensum. Donc c'est Karen Lord, le meilleur des mondes possible. Voilà, super bouquin que je vous recommande.
Hey! mort. Personne ne part. Battu à mort. Entre un corps. Sale décor. Et encore. Ce moment-là. Personne ne part. De nombreux de gens. Regret souvent. D'échappement. La ville en ville. Dans un champ. Tout tranquillement. Mais c'est difficile.
Bonsoir, vous écoutez encore Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour une émission de rentrée de présentation littéraire. Et là, vous venez d'entendre Guernica, un tiré du Split avec des Bérus, un morceau de 83, et le morceau s'intitule Une petite fille. Et le livre que je voudrais vous présenter rapidement, c'est un livre d'Imgard Kuhn, une autrice allemande des années 20-30, qui a été assez célèbre avant l'arrivée des nazis au pouvoir, et qui ensuite a été oubliée jusque dans les années 70-80 en Allemagne. Et là, elle est revenue un petit peu. On s'est souvenu qu'elle avait écrit des choses. Elle était encore vivante et on a réédité et traduit ses ouvrages. Là, ça a été édité chez Agone. Donc, ça s'intitule Quand je serai grande, je changerai tout. Il y en a d'autres qui valent le coup. J'en ai lu un autre au moins qui s'intitule, je crois, Après minuit, qui est assez beau. Alors. Théoriquement, le roman d'Imgard Kuhn, Quand je serai grande, je changerai tout, c'est l'histoire d'une. C'est un roman à la première personne, avec une petite fille qui s'exprime, et c'est censé se passer à la fin de la Première Guerre mondiale. En réalité, elle l'a écrit au moment de l'arrivée des nazis au pouvoir, et malgré tout, c'est assez transparent le fait qu'elle parle peut-être un peu moins de la fin de la Première Guerre que du début du régime nazi. Et comment vous dire, sans paix et mort, hein, comme la reine. Et là, c'est un petit peu, ce serait petite Nicole chez les nazis, plutôt que le petit Nicolas qui fait je sais pas trop quoi. Et c'est écrit, c'est assez frais, mais comment dire, il y a beaucoup de pointes qui sont assez belles. Et il y a des descriptions de comment dire des soldats, des gens qui essayent de comment dire de vivre comme ils peuvent à la sortie de la guerre, qui sont assez touchantes. Et ça, pour le coup, autant j'étais comment dire pour Jaworski, bon, je pourrais vous dire c'est pas forcément nécessaire de le lire. Ça, je vous le recommanderais volontiers. Comment dire, c'est émouvant et c'est bien écrit. Je vous lis un petit passage pour terminer. Je ne veux pas pleurer. Les adultes rient quand je pleure. Et quand je ris, ça ne leur plaît pas non plus, parce que j'ai fait quelque chose qui ne leur convient pas. Il paraît que je dois apprendre à saisir le sérieux de la vie. Qu'est-ce que ça peut bien être ?
Bam, tu lâches le micro, là.
D'accord. Drop de mic.
I watch the TV, murder and disaster. Like a little freak, I keep scratching the wall. My hands in rubber, I keep up the gossip. Turns into
I'm
Radio Libertaire 89.4, c'est encore Jeudi Noir qui se poursuit avec la littéraire. On vient d'écouter les Meteors, le groupe des Pays-Bas, un morceau de 79. Wow, 79. Everything I touch turns into gold. Tout ce que je touche devient de l'or. Puisque je vais vous parler d'un bouquin de Naomi Novik, qui est une autrice états-unienne d'origine lituano-polonaise. On reste exotique, trop exotique. C'est ça la France. Voilà, donc né en 73, on est vraiment dans l'ultra contemporain quand même, avec un bouquin sorti en 2018, traduit en 2020 chez Pygmalion, qui s'appelle La fileuse d'argent. La fileuse, non pas parce qu'elle donne de l'argent, même si elle en prête, mais parce qu'elle le file, même pas. Allez, on y va. Donc c'est un bouquin d'ambiance médiévale fantastique, on va dire, assez inspiré des contes est-européens, d'où la précision lituano-polonaise du début, hein, c'était pas gratuit bien sûr. Alors ça raconte l'histoire d'un monsieur juif, qui n'a rien à voir avec un Céline de gauche bien sûr, et qui est forcément prêteur, voilà, puisqu'on lui impose d'être prêteur. Sauf que ce monsieur, il prête, mais sauf qu'il, le problème, c'est qu'il n'aime pas récupérer l'argent. Il a beaucoup de mal. Donc tout le monde se fout de sa gueule, profite de lui. Sa femme en a un petit peu marre d'être pauvre parce que le mari est trop timide. Et une de ses filles, Myriam, décide de prendre le business à pleine main et va réclamer l'argent. Et il se trouve que Myriam est super douée pour récupérer l'argent. Voilà, elle est très très forte, c'est une ado qui est super balèze là-dessus, elle a un don. Et donc, ils se mettent à prospérer, cette famille, voilà, deviennent plutôt aisés, on va dire. Et ça vient aux oreilles, cette prospérité, d'un starik. Alors un starik, c'est une créature hivernale, surnaturelle, une sorte d'elfe de l'hiver, on va dire, un peu mystérieux, qui sont très très autoritaires, très craints dans cette région-là. Et la légende de cette fille-là, c'est qu'elle change l'argent en or. Alors, le starik est un peu con et il prend ça au pied de la lettre. Il pense vraiment qu'elle change l'argent en or. Et donc, le starik lui dit, écoute, tu vas devoir me changer tout l'argent en or, sinon il va arriver des bricoles à ta famille. Et là, ça part sur une histoire de dark fantasy, où on suit trois personnages principaux, trois femmes. Donc elle, la fille du prêteur, une princesse, qui est pas trop contente de son sort, d'un mariage arrangé. Et puis, une servante de la prêteuse aussi, donc vraiment le lumpen prolétariat, voilà, de ce bled-là. Et ces trois personnages vont en parallèle vivre cette aventure avec les Starik. C'est très frais, c'est pas juste par rapport à l'hiver, mais c'est super bien écrit, c'est un vent complètement épique, en même temps des côtés intimistes. Les persos sont vraiment très 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 sympathiques, plein de rebondissements, plein de petites réflexions l'air de rien, au passage aussi un peu sur l'identité, le rapport à l'argent, sur beaucoup sur le statut des femmes, un petit peu comme un bouquin dont je vous ai parlé il y a quelques temps, Le Rossignol, etc., L'Ours et le Rossignol, qui était moins bien réussi. Voilà, je m'arrête là, c'est Naomi Novik, La fileuse d'argent. À tout à l'heure. We'll be right back.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc là, vous venez d'entendre Bikini Kill, un super groupe américain des années 90, évidemment. Et donc c'était le titre, c'était Reject All American. Et c'était pour vous parler d'un roman d'un auteur dont je vous ai peut-être souvent parlé, Chuck Palahniuk. Qui a écrit Fight Club, qui a écrit des romans comme ça, qui ont un petit peu marqué une époque. Et là, c'est un roman qui s'intitule Pygmée ou Pygmy, et qui raconte, alors souvent avec Palahniuk, c'est des histoires très très improbables, et vous avez toujours un twist qui est très surprenant. Alors là, le pitch, pour aller vite, le scénario de base, c'est quoi? C'est imaginer un échange d'étudiants, enfin plutôt une visite d'étudiants qui viendrait d'un état totalitaire type Corée du Nord et qui sont accueillis par des familles américaines qui leur disent: ah voilà, maintenant t'es notre fils, t'es de la famille, tu fais partie de la team. Et le groupe d'étudiants de l'état totalitaire, pour aller vite, nord-coréen, en réalité c'est des adultes déguisés en adolescents qui sont là pour commettre un attentat terroriste. Et ils sont surentraînés, c'est des assassins, des espions, et tout, et tout. Et donc, il va y avoir cette espèce de choc culturel entre ces assassins issus d'un état totalitaire surentraîné et le monde américain complètement bling et débile, qui a aucune idée de ce qui est en train de se passer et de ce que ces fameux étudiants sont en train de tramer. Et donc, tout va se jouer autour... d'une espèce de, de projet scolaire où ils sont censés faire un projet scientifique. Voilà, et on ne sait pas du tout ce qui les attend, ce qui attend les protagonistes ni le pays. Et donc voilà, c'est du Palahniuk. Vous avez le scénario d'ensemble, et bon, à un moment ou à un autre, il y a toujours un retournement, ça c'est le cas. Celui-là, à mon avis, c'est un roman assez drôle, voire très très caustique. Et bon, il reprend un petit peu des thèmes classiques du type la visite du soi-disant sauvage dans un pays civilisé dont le regard va évidemment dévoiler tous les travers et toutes les inconséquences et toutes les hypocrisies, évidemment. Donc c'est en quelque sorte un peu de la littérature de ce point de vue-là, je dirais presque classique. Ensuite, c'est tordu, c'est souvent malaisant, c'est Palahniuk. Voilà, donc Pygmée de Palahniuk.
Voilà, bon, je coupe un peu le morceau, vous êtes toujours sur Génial. Le morceau est un peu long, malheureusement, parce qu'il est, il est vachement bien. Donc c'est, comment s'appelle ce groupe? Ah oui, Weird War, la guerre étrange. Et le morceau, c'est Moment in Time, un moment dans le temps. Alors c'est tout à fait en lien avec le bouquin dont je vais vous parler. Je sais pas qui a fait la playlist, mais c'est mortel. Et donc, parce qu'on va, je vais vous parler d'une guerre étrange et de plusieurs moments dans le temps. C'est un bouquin, alors également que j'ai vu sur dans l'émission Vortex et Rotative, dont je vous parlais tout à l'heure, tantôt, dont toujours les liens seront mis sur jeudinoir.guerdulu.org, voilà. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle Les Oiseaux du Temps, en français, de Amal Elmotar et Max Gladstone. Max Gladstone, c'est pas facile à dire. La pierre joyeuse. Voilà, donc Amal Elmotar et Max Gladstone, Les Oiseaux du Temps. Mais le titre original est quand même mieux. This is how you lose the time war. C'est comme ça que tu perds la guerre du temps, la guerre temporelle. Voilà. C'est un bouquin sorti en 2019, toujours actu, et traduit en 2021 et sorti chez Mnemos. Donc Amal Elmotar et Max Gladstone sont des auteurices Amal du Canada et Max états-unien, né en 84, les deux. Voilà. Alors c'est un des bouquins les plus étonnants que j'ai pu lire cet été. On a deux entités guerrières qui s'appellent Bleu et Rouge, qu'on appelle Bleu et Rouge, et qui voyagent dans le temps. Les deux travaillent pour des agences, on ne sait pas quoi, en tout cas qui sont ennemis et qui essayent de modifier le temps de manière à ce qu'il se passe ce qui doit se passer pour eux à leur avantage. Et donc ces deux entités Bleu et Rouge sont les tueuses d'élite, on va dire. Et ces tueuses d'élite se font des petites blagues sur les champs de bataille, se laissent des petits mots. Et comme ça commence une correspondance. C'est un roman épistolaire où chaque chapitre, c'est une lettre écrite soit par Bleu, soit par Rouge. Et ces deux ennemis vont commencer à s'apprécier l'une l'autre et à se laisser des lettres sous des formats assez incroyables. Je peux pas en dire plus parce que vraiment là, faut pas que je vous dévoile trop. En tout cas, c'est très joli. Alors c'est un roman écrit donc à deux mains, quatre mains. Je sais pas s'ils ont utilisé le stylo ou s'ils tapent à deux mains sur l'ordinateur. Enfin, en tout cas, deux personnes. Chacune des auteurs-autrices ont écrit un chapitre. Voilà, soit par Bleu, soit par Rouge. Et donc, ce sont des grandes déclarations d'amitié, d'amour entre des personnages. C'est assez incroyable. On dirait que chaque lettre, chaque chapitre essaye de surpasser l'autre. C'est juste très, très beau. C'est poétique, c'est lyrique, c'est épique. Et en même temps, très, très, très intimiste et parfois bien cru. Voilà. Donc, c'était Amal Elmotar et Max Gladstone, Les Oiseaux du Temps. Oi, 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 jumping voices, voice on fire, enough to face the game.
thing. The only thing that'll ever change will be the song you sing. Cause when you bought your Rolls Royce car, luxury penthouse flat, you'll be looking down your nose and saying, pop, new triple threat. You'll be the way class, you know, your middle class treat. And we've all been upstate, and the world has always been. But the people's spirit is saying, stop on in the class. Just the one that's sent, cause you're sitting on your ass. Class, 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 that's all you're fucking here. Middle class, working class, I don't fucking care. The Great Bungo River, oi, oi, oi. What a fucking river, oi, oi, oi. It's a great deal of stand up, oi, oi, oi. I just leave a bank, I leave a bank, I leave a boy. That's people's spirit, and I don't care where they're from. Black and white, paper skin, there ain't no right or wrong. We're all just human beings, some are strong, some are good. Stuck in 40 meters, come together, I know we could.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir pour la littéraire de rentrée qui s'arrête, comment dire, qui va s'arrêter après. Oh, attendez, on a de l'écho là, c'est pénible. Donc merci José. Et je voulais vous présenter ou vous représenter, parce que je pense qu'on vous avait fait une petite chronique de tout un tas de bouquins de John King il y a très longtemps. Et c'est un livre qui me semblait aussi adapté à l'époque. En plus, il a été traduit depuis. Ça s'intitule White Trash. Donc ça veut dire les blancs pauvres un peu pourris. Et c'est un roman qui confronte deux personnages. Une infirmière un peu punk, un peu classe pop, et un haut fonctionnaire, mais en France ce serait un haut fonctionnaire, très propre sur lui, blindé de thunes, et qui est là pour rationaliser la santé, pour rendre la santé moins chère. Et au fur et à mesure que le roman se poursuit et qu'on suit les personnages, en fait, on va s'apercevoir, alors je ne vais pas spoiler parce que ce serait quand même affreux, mais que ce personnage si propre sur lui est en fait un sacré sac à merde. Mais de manière, vraiment massive, disons. Donc c'est un roman un peu manichéen qui manipule la métaphore avec la finesse de Conan le Barbare. Mais de temps en temps, c'est bien en fait aussi, parce que parfois les choses sont plus simples qu'on pourrait imaginer, et les réduire à une allégorie un peu brutale, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est un roman qui se lit pas mal, et si vous appréciez l'univers de John King, ça tient dedans. Voilà. Donc on se retrouve normalement dans 2 semaines avec autre chose, et là on vous laisse, vous avez écouté un petit morceau de Crass. It's the greatest working class rip-off. Et là, on va vous laisser avec un morceau d'Andy Kerr, le glorieux ancien guitariste de No Means No, le plus grand groupe de tous les temps.
I'm gonna tell you a secret. Gonna lay it on the line. I'm gonna have my say, my own way. Gonna get it off my mind. I'm gonna open right up. Tell the world my story. The whole ball of wax, as a matter of fact, in all of its ugly glory. Hey, hey, hey. A big old pile of dough. Whoa, whoa, whoa. Just to spill the beans on everything and everyone that I know. When the book comes out. Whoa, when the book comes out. When the book comes out. Whoa, when the book comes out. I'm gonna give you the word. The book comes out. Watch out, world, 'cause here I come. Look out, Kitty Kelly, gonna go.
Okay, the movie is in the on TV. A video game featuring my name and a box set of CDs. But there's no need to get all worried.